Vous êtes sur RTL.
La parole.
Pascal Praud sur RTL.
Paul est donc là, Paul qui est chef d'entreprise et qui habite l'Acro. Donc Paul, l'intervention hier de Emmanuel Macron, elle fait parler. Pourquoi ? Parce que Madame Merkel a demandé pardon, parce que les Suisses également, on dit on a fait des erreurs, parce que Boris Johnson aussi s'est sinon excusé, il a dit désolé, etc. Or, le président de la République dit pas de mea culpa. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, il a raison, pas de mea culpa, parce que c'est pas, il n'y a pas que lui dedans, hein. Il y a tout un service de santé qui lui ont prodigué des conseils qui ont été néfastes. Et je pense qu'il a fait une énorme erreur déjà depuis le début. Quand il a dit nous sommes en guerre, moi j'ai toujours appris que s'il y avait une guerre, il devait confier ça aux militaires, aux services sanitaires des armées. Et je pense qu'ils auraient été beaucoup plus efficaces que l'autorité de santé qu'on a actuellement. Non, pas d'excuses, parce qu'il n'y a pas que lui dedans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait énormément d'erreurs. Et ça serait mauvais qu'il s'excuse, parce que bon, maintenant on le sait, tout a été mal fait. Bon, c'est fait.
Pas
c'est
tout
fait,
complètement, hein. Quand même, parce qu'on est assez dur sur l'exécutif pour souligner, par exemple, les écoles qui restent ouvertes. Il y a consensus pour dire que c'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose. Là, les écoles ouvertes, j'ai toujours. Mais de toute façon, il y a un énorme problème. C'est qu'au départ, tous les médecins, les autorités de santé, tout le monde a dit l'immunité de masse se fera une fois qu'il y aura 70% de la population contaminée. Le problème, c'est qu'on a voulu enfermer tout le monde sans qu'il puisse se contaminer. Donc déjà, là, on a eu un problème. Ce problème, on le sait parce que c'était les problèmes de lits de réanimation qu'on n'avait pas. Donc, ils l'ont fait. Mais le problème maintenant, c'est que vous êtes tous les jours, on vous dit, on a 45 000 contaminés. Oui, c'est vrai. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a un an, on ne testait personne. Donc, si on avait testé en 1980, par exemple, on se serait aperçu que beaucoup d'individus ont, à l'intérieur de leur corps, des milliers de virus qu'on absorbe tous les jours et qu'on rejette. C'est pour ça, j'arrive pas à comprendre leur politique. Alors, on veut l'immunité de masse, mais par contre, on fait le contraire. Alors, j'ai du mal à suivre, quoi.
Merci, Paul, pour ce premier témoignage. D'une manière générale, Paul, vous pensez pas qu'il est bon pour un chef d'État de s'excuser ? C'est parfois une affaire de culture aussi. Dans les pays du Nord, protestants, peut-être s'excuse-t-on plus facilement que dans un pays, j'ai envie de dire, gaulo-bonapartiste, où le chef, quoi qu'il arrive, le chef a toujours raison.
Je vais vous dire, s'excuser, ça rimerait à rien, parce que si jamais c'était de sa propre initiative qu'il avait fait ça, à la rigueur, on l'aurait dit, oui, il est responsable. Mais là, c'est pas que lui, c'est tout un groupe qui
J'entends
était
bien.
Avec lui.
J'entends voilà, bien, c'est tout, hein. J'entends bien. Alors, il a dit précisément en plus, je ne fais pas de mea culpa sur le 29 janvier, et il a expliqué pourquoi, à son avis, il a eu raison de ne pas confiner, et c'est vrai que ce qu'on annonçait n'est pas arrivé. Merci Paul. David est là, qui est chauffeur routier, qui habite Le Mans. Bonjour David, même question, excuse ou pas excuse ?
Bah, qu'il fasse des excuses ou pas, ça ne va rien changer. Moi. Pour moi, ça ne changera rien du tout, parce que je ne m'empêche pas de vivre. Et ça fait un an qu'on est dans cette crise-là, et au final, on n'en voit pas le bout arriver. Alors qu'on nous confine à 19h, qu'on nous confine à 18h ou à n'importe quelle heure, ça va rien changer du tout.
Ah, c'est pas pareil quand même. Si vous avez le droit de sortir une heure par jour ou si vous avez le droit de sortir tout le temps, c'est pas la même chose.
Quand vous êtes dans le transport ou n'importe quelle personne qui travaille dans le bâtiment ou n'importe quoi, quand on travaille toute la journée, la semaine, et que vous pouvez rien faire parce que vous finissez le travail à 18h, à part aller faire les courses, consommer.
Mais samedi et dimanche, demain par exemple, je sais pas si vous travaillez le week-end, mais ça change tout. Si vous deviez sortir avec, durant une heure simplement avec une attestation, c'est pas la même chose quand même.
Faire de la marche à pied, je veux bien, mais il y a un moment, je vais pas faire les JO, quoi, à force de marcher, quoi. On a envie de voir des gens, on a envie d'aller dans des parcs, parce que vous savez, monsieur.
Mais vous avez le droit d'aller dans des parcs.
Mais bien sûr, mais quand vous allez à Walt Disney, tout ça, c'est fermé. Quand vous avez des enfants qui ont entre 6 ans et 9 ans, vous en avez deux qui vont toute la semaine à l'école. Vous savez, ma fille, moi, elle a 9 ans, elle va faire son troisième test Covid. La petite, là, elle pleure parce qu'aujourd'hui, elle va faire un autre test Covid. On me dit que dans l'école, il n'y a pas de maladie. Et en plus, pas de chance, parce que ma femme, elle est professeure des écoles. Donc elle aussi, elle est obligée de faire le test Covid. Donc il y a un moment, quand on me dit, dans l'école, il n'y a pas de contamination, on nous dit, c'est pas dans les écoles, ma fille, c'est son troisième test Covid, vous croyez qu'elle n'a pas marre d'avoir des bâtons dans le nez ? On lui fasse penser ça dans le nez ?
Non mais je suis d'accord avec vous, mais...
Elle pleure, la petite.
Mais quelle est la solution alternative ?
Ben, moi, vous savez, je pense que depuis le début, il y a eu une grosse erreur. Vous savez, monsieur Pro, quand vous êtes malade ou quand on a une gastro-entérite, qu'est-ce qu'on fait ? On reste chez nous. On est bien d'accord. On est bien d'accord.
Non, mais je suis d'accord.
Là, le truc qu'il fallait faire il y a un an, parce qu'on a, on a privilégié quoi ? On a dit, ben non, on va laisser les frontières ouvertes, tout ça. Alors, je ne suis pas, je ne vote pas, je ne suis pas d'extrême droite. Mais moi, pour moi, depuis le début, c'est un peu bête, et c'est ce que je vais dire. C'est peut-être un peu bête, ou peut-être que les gens vont peut-être mal penser. Mais au début, on avait des malades français qui étaient à l'extérieur. C'était un peu dommage, mais on aurait peut-être dû les laisser à l'extérieur, peut-être se faire soigner.
David, ça n'aurait rien changé. Regardez, le monde entier a ce virus. Et il y a eu 50 politiques. Bah, personne n'a adapté la même politique, et à l'arrivée, le monde entier est contaminé par ce virus.
Comme je vous dis, je vous le répète, je ne suis pas, je ne vote pas, je ne vote plus depuis des années. C'est ma façon de voir.
Mais vous êtes désillusionné.
Oui, je suis désillusionné. Oui,
désenchanté.
Oui, j'ai servi mon pays, j'ai servi la nation dans différents pays étrangers. Vous voyez, bon, enfin bon, bref.
Quand vous étiez militaire.
Oui, j'étais militaire, mais quand on vous envoie dans des pays étrangers, bon, après, c'est un autre sujet, mais bon, quand on dit aux militaires, vous allez payer à tant de pourcents, mais puis résultat, arriver dans des pays étrangers, où est-ce que c'est des risques, où est-ce qu'on risque notre vie, où est-ce qu'on vous descend votre solde à moitié prix, parce que, soi-disant, la
c'est vrai qu'on est loin, là, du Covid, là.
On en est très loin, voilà, mais c'est la façon de dire, moi, je dis que depuis le début, c'est un peu bête, mais on aurait fermé les frontières, testé les gens qui arrivaient de l'extérieur français en disant « oui, vous n'êtes pas malade ». Et comme là, quand on a eu le variant anglais, c'est bizarre, parce qu'on avait des gens d'Angleterre qui venaient au mois de décembre pour les fêtes de Noël, hop, on a chopé la maladie après. Par contre, nos routiers français, parce que moi, je défends maintenant le routier, mais on avait des routiers français le 25 décembre qui dormaient en Angleterre parce qu'ils n'avaient pas de test PCR pour rentrer chez eux. Vous trouvez ça normal ?
Non. Merci David, voilà. Effectivement, ce n'est pas normal, mais la difficulté, c'est toujours d'imaginer une politique alternative. Et c'est là que l'affaire parfois se corse. En tout cas, merci à David et à Paul pour qui ont été les deux premiers intervenants. Bonjour à Greg Caranoni.
Bonjour à
aujourd'hui.
Tous.
Aujourd'hui, et nous avons des sujets rugby, nous avons des sujets sur l'Église et la pédophilie. Je le disais, c'est toujours un sujet qui fait incroyablement réagir nos auditeurs avec des témoignages qui sont souvent bouleversants. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de ne pas reconfiner le pays fin janvier ? Le chef de l'État a répondu à la question hier soir à l'issue d'un Conseil européen.
Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays ? Comme des modèles montraient que nous allions flambé en février. Non, je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Et donc je considère que nous avons eu raison le 29 janvier de ne pas prendre de mesures de fermeture, et il n'y a à mes yeux aucun tabou. Et donc sans doute dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre.
Je n'ai aucun mea culpa à faire, a déclaré Emmanuel Macron. Ah bah, il ne doute de rien, réagit Elisabeth sur la page Facebook de l'émission. Et la campagne de vaccination, on en parle. Quelle arrogance, écrit Fabrice, quel mépris pour Philippe. Et bien sûr pour Sandrine, il fallait reconfiner fin janvier. On a perdu trop de temps, regardez où nous en sommes. Je rejoins Emmanuel Macron, écrit au contraire Serge, pas de mea culpa à faire, mais qu'il reconnaisse quand même qu'il y a eu quelques erreurs. Et pour Alexandre, quoi qu'il fasse, il y aura toujours des mécontents. Et vous, qu'en pensez-vous ? 32 10 3 2 1 0.
Et nous continuons la discussion avec Véronique qui habite dans le Loiret. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Que pensez-vous qu'Emmanuel Macron aurait dû faire hier soir lorsqu'il s'est exprimé ?
Tout sauf ça.
C'est-à-dire ?
Il aurait dû faire son mea culpa, c'est ce qu'on attendait, ça aurait calmé un peu les esprits.
Mais ça j'en sais rien, mais sur quel domaine il aurait dû faire son mea culpa ? Pour l'ensemble de son œuvre depuis un an ou sur un point précis ?
Alors sur déjà le fait de ne pas avoir confiné, alors que les scientifiques lui avaient dit de le faire, que c'était pas à l'instant T que ça allait se gâter, mais que c'était dans 3 semaines.
Mais vous trouvez qu'il aurait eu raison d'abord, de quel confinement vous parlez ? Du 29 janvier ou d'il y a 8 jours ?
Je parle du 29 janvier.
Mais le 29 janvier, vous n'êtes pas d'accord donc avec sa thèse de dire qu'il n'y a pas eu d'explosion au mois de février et que ce n'était pas justifié de confiner ?
Il a été dit par les scientifiques que le mal n'était pas à l'instant T, mais que ça allait se voir dans 3 semaines, voire 4 semaines.
Mais c'est pas ce qui s'est passé.
Ben si, c'est quand même ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui,
C'était le 29 janvier et 15 jours ou 3 semaines plus tard, c'était le 20 février. Et l'épidémie en soi, elle ne flambe pas, je le répète tous les jours. Le taux de positivité, il est toujours le même. Il est à 7,89 aujourd'hui. C'est la proportion des tests qui sont positifs parmi l'ensemble des tests. Hein. Il est de 7,89. En revanche, ce qui est catastrophique, c'est la tension hospitalière.
C'est ça. Mais tous les jours, le nombre de personnes contaminées ne fait qu'augmenter. On était à
évidemment, puisqu'on, mais parce qu'on a plus de tests. On teste plus. C'est pour ça que le chiffre des tests, faut le mettre parfois en perspective, Véronique.
Mais pourquoi il y a tant de tensions en réanimation ? Pourquoi les hôpitaux parisiens sont débordés ? Expliquez-moi pourquoi dans ce cas.
Mais parce que vous avez un afflux de patients. Vous avez un afflux de patients, mais comment dire, on est 12 millions en Île-de-France. Vous avez 1000 lits de réa. Comment ça ne pourrait pas être autrement ? Tous les ans, il y a tension hospitalière. Tous les ans, Véronique.
Donc, pour vous, c'est tout à fait normal. Il n'avait pas de mea culpa à faire. C'était logique. Il n'a rien fait. Enfin, non, moi, je trouve qu'il n'a pas géré. Il n'a pas bien géré.
Bah, sur le 29 janvier, il y a discussion. Après, sur l'année qui vient de s'écouler, il y a beaucoup de ratés. Tout le monde, tout le monde l'a vu, la campagne de vaccination n'est pas réussie. Les slogans ont changé tous les deux mois. On était sur tester, tracer, isoler. Maintenant, on est sur sortez dehors. Avant, c'était encore autre chose. Vous voyez, il n'y a pas de ligne conductrice claire comme il y a parfois en Allemagne ou en Italie, par exemple.
Oui, tout à fait. Mais même par rapport aux écoles, il aurait largement fallu... Enfin, pour moi, il aurait fallu un vrai reconfinement. Écoutez les scientifiques, les gens qui savent au niveau de la médecine.
Vous trouvez qu'ils savent, les scientifiques, depuis un an ?
Ah oui, quand même. Ils nous ont quand même bien guidés. Et je veux dire qu'ils sont là quand même pour voir. Ils connaissent la tension hospitalière, ils connaissent le virus, ils connaissent un petit peu ce qui va se passer parce que les chiffres que l'on a aujourd'hui, pour eux, ça ne les étonne pas.
Mais les conséquences psychologiques, sociales, culturelles, économiques, tout cela, vous trouvez qu'elles sont moins importantes que sauver une vie ou plusieurs milliers de vies ? Parce qu'effectivement, un confinement aurait objectivement sans doute sauvé quelques vies.
Beaucoup de vies et les conditions. Enfin, oui, bien sûr que psychologiquement, c'est difficile pour tout le monde. On attend de pouvoir ressortir. Mais enfin, moi, je pense qu'il aurait fallu un reconfinement strict. Parce que là, ce n'est pas un reconfinement. Hein. Même s'il y a 3 nouveaux départements qui sont concernés, ce n'est pas un reconfinement. Vous pouvez sortir à votre guise avec une attestation, certes. Mais il n'y a pas du tout. Enfin, pour moi, ce n'est pas un vrai reconfinement.
Et ça, vous avez raison, Véronique. Personne, d'ailleurs, ne conteste cela. Que tout le monde voit bien que ce n'est pas le vrai confinement. On l'a vécu en mars dernier.
En mars dernier, tout à fait. Et les chiffres ont baissé. Mais à partir du moment où c'est vrai, et ce qui est tout à fait normal pour un chef de gouvernement, de faire passer l'économie avant la santé, eh bien, il faut, j'allais dire, c'est chacun sauve sa peau, hein. Chacun fait attention.
Mais il n'y a pas que l'économie, parce que la santé, ce n'est pas non plus que de ne pas avoir le Covid. La santé, elle est aussi mentale. La santé, elle est pour les étudiants qui sont en burn-out. La santé, elle est pour les dépressions. Vous voyez, il y a beaucoup de conséquences. On en a parlé hier avec une tribune que je lisais de Marie-Estelle Dupont, qui intervient d'ailleurs sur RTL régulièrement et qui est clinicienne et qui disait le drame du confinement.
Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Moi, j'ai mes garçons qui sont étudiants. Il y a beaucoup, beaucoup de... Là, en ce moment, il y a des parrainages. Chacun peut parrainer un étudiant, être à ses côtés, financièrement l'aider, pour des stages, et ainsi de suite. Il y a quand même beaucoup de choses. Ça, on n'en parle pas du positif. On ne parle que de ce qui se va mal. Que les étudiants sont en burn-out, que tout va mal, qu'ils sont tous en train de se suicider. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, même financièrement, des aides de plein d'organismes qui sont donnés aux étudiants, des repas, enfin il y a quand même plein de choses qui sont faites. Et puis après, le télétravail, est-ce que... c'est très compliqué, je ne dis pas que c'est facile, mais son côté un peu orgueilleux, j'ai rien contre, j'ai voté pour lui, hein, mais son côté orgueilleux, un petit peu, je sais tout, je décide tout seul, et ce que disent les autres, je m'en fous un peu, de toute façon c'est moi qui ai maître à bord. C'est ça que j'ai du mal à supporter, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous faites cette émission, vous traitez ce sujet-là. Parce que ça a un peu peur de nous.
Ben merci beaucoup Véronique, merci parce que ce que vous disiez était extrêmement argumenté, on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas c'était très argumenté. 13h17, j'ai vu que c'était l'anniversaire de Rock Voisine aujourd'hui. Ah,
rien ne vous échappe.
Hier c'était Elton John, aujourd'hui c'est Rock Voisine.
C'est quoi, c'est un message pour écouter un petit peu de Rock
pas
Voisine,
du tout,
parce que je vous connais par cœur, mais bien sûr que
quand
si.
On est le vendredi, on a le droit d'écouter un peu de musique.
Le sable, les yeux dans
vous savez quel âge il a Rock Voisine?
63 ans.
Non, vous êtes vraiment désagréable. Il a 58 ans, Rock Voisine.
Bah, c'est pas très loin, franchement.
Non, vous n'êtes pas très loin. C'est vendredi, donc l'ami Cini passera peut-être par le studio pour annoncer on défait le monde. Et puis on se dit à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Sur la campagne de vaccination contre la Covid-19, l'Europe est un peu un diesel qui démarre lentement, mais va loin, a estimé Emmanuel Macron dans cet entretien avec Nikos Aliagas, qui a été diffusé mercredi par une télévision grecque. Nous sommes avec Francis. Bonjour Francis, vous êtes enseignant, vous habitez Nancy.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditeurs.
Merci d'être avec nous.
Oui, alors déjà, je voudrais corriger un peu ce que vous avez dit tout à l'heure en disant on n'est pas dans un vrai confinement. Le vrai confinement, c'était il y a un an. Il y a un an, les trains rentraient dans notre pays, les avions rentraient dans notre pays. On a même envoyé des avions à Wuhan pour chercher des gens qu'on a ensuite stockés dans un camp de vacances du sud de la France. Les camions passaient les frontières, etc. etc. Donc après, il faut définir ce qu'on appelle un confinement. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui ? En Chine, j'ai un ami qui envoie ses cadres en Chine parce qu'il travaille dans le monde industriel. Ils arrivent et ils sont stockés 14 jours dans un hôtel. Ils sont stockés 14 jours, isolés 14 jours dans un hôtel. Ils sont testés. S'ils sont positifs, eh bien, ils restent à l'hôtel. Et s'ils ne sont pas positifs, au bout de 14 jours, ils peuvent sortir et puis aller vaquer à leurs occupations. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Qu'est-ce qui se passe au Qatar? Là, j'ai fait exprès de prendre des pays qui ne sont pas des pays...
Que des démocraties.
Oui, mais qui ne sont pas des îles. Parce que sinon, si j'avais dit...
Non, mais vous avez raison, mais c'est vrai que la Chine ou les régimes autoritaires, dans ces cas-là, j'allais dire, ils n'y voyaient pas malice, mais c'est parfois plus facile pour un pays autoritaire d'appliquer des règles plus strictes. C'est plus difficile dans nos démocraties d'appliquer des règles qui empêchent toute liberté aux uns et aux autres.
Oui, oui, mais après, on mesure le résultat. Et le résultat, c'est que si on parle pandémie, dans ces pays-là, elle continue, voire stoppée. Si on parle autre chose, alors là, après, on peut discuter. Est-ce que Macron, il a raison de dire pas de mea culpa, etc. D'ailleurs, est-ce qu'il aurait dit ça il y a 3 jours s'il avait parlé avant Angela Merkel? C'est pas sûr. Et puis, que vous dit Emmanuel Macron? En fait, il vous dit ce qu'il a envie de dire à un certain électorat parce qu'il est rentré en campagne. Maintenant, il ne faut plus écouter ni Xavier Bertrand, ni Emmanuel Macron, ni Olivier Faure, ni Julien Bayou, je ne sais pas comment. Voilà, tous ces gens-là maintenant sont en campagne. Quel est leur métier? Leur métier est d'être élu. Donc dans 3 mois...
Vous savez, il n'est pas sûr de se représenter, Emmanuel Macron. Hein.
Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Maintenant, il est jeune, les autres...
Il est jeune d'abord.
Il a 60 ans, 70 ans quand ils sont arrêtés.
Il est jeune d'abord, Francis.
Il ne va pas s'arrêter à 40 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse?
D'abord,
il ne servira plus après.
Mais d'abord, il est jeune. Et secondement, Emmanuel Macron, il n'a rien fait comme les autres. Et c'est un joueur dans tous les sens du terme. Et il est possible qu'il ne se représente pas, vous verrez. Hein. C'est une possibilité que je n'écarte pas.
Macron a fait ce qu'on a fait de lui. Voilà, Macron oui. c'est Obama chez nous. C'est pour moi, c'est une marionnette politique. Il a été placé par des gens qui ont... D'ailleurs, il n'avait pas de parti. Ça devrait étonner tous les journalistes et tous les commentateurs. Il n'avait pas de parti. Comment il a fait pour financer une campagne? Quand on sait les dizaines de millions d'euros qu'il faut, et Sarkozy va bientôt en savoir quelque chose avec les procès, Ligue Malion, etc. Donc, comment il sait... comment il a pu financer une campagne. Donc, il a été aidé par des gens qui avaient intérêt à ce qu'il soit là. Il suffit de regarder derrière les mesures qui sont prises et on sait à peu près, sans lire Juan Branco et Crépuscule, on sait à peu près qui a aidé Macron à être élu.
Mais tous les présidents sont libéraux en France depuis 50 ans, si vous me permettez. Ils ne dérogent pas à la règle.
Hollande,
mais en revanche, on s'est un peu éloigné, si vous me permettez, du Covid. Parce qu'au fond, vous interveniez pour savoir ou pour dire s'il avait eu raison ou pas de s'excuser. C'était ça le motif de l'appel.
Oui, alors, et on est parti sur cette direction-là parce que j'ai dit, il fait de la politique. Donc, c'est une déclaration politique. On n'est pas en train de parler de
évidemment qu'il fait de la politique, un président de la République. Que voulez-vous qu'il fasse ?
Non, parce que quand on dit gaullien ou gaulliste, etc., on pensait d'abord au peuple, on pensait ensuite au pays, et après, on pensait à sa carrière politique. Donc, là, c'est quelqu'un qui veut être réélu et qui va nous faire maintenant des déclarations, des prises de position.
Bon, vous n'avez pas été convaincu.
Ah non, mais pas.
Mais vous aviez voté pour lui en 2017 ?
Ah, surtout pas. Non, non.
Ah oui, donc à la.
Mais ni pour lui, ni pour un autre.
C'est-à-dire, vous ne votez plus ?
Je vais voter nul à chaque élection.
C'est terrible parce que vous êtes le deuxième auditeur sur 4, donc ça fait quand même 50% qui ne votent plus. Et ça, c'est inquiétant. Vous voyez ?
Ben oui, mais
beaucoup plus inquiétant peut-être que. Et pourquoi ? La dernière fois que vous avez voté, c'était quand, Francis ?
Je pense que c'était le référendum de 2005, où là j'ai vraiment compris. J'avais déjà fait quelques votes nuls avant ce référendum sur le traité constitutionnel européen. Et là j'ai vraiment compris que en fait notre vote n'était qu'un leurre. Notre vote était quelque chose qui légitimait des actions qu'ils avaient envie. On pourrait discuter longtemps sur le ils, qu'ils avaient envie. Qu'on fasse et que notre avis importe peu.
Génération désenchantée. Vous êtes
je vous rappelle quelque chose quand même, parce que vous recevez beaucoup d'hommes politiques dans vos émissions, ou de femmes politiques. Je vous rappelle que en 2005, le peuple français s'est mobilisé avec des campagnes, des réunions, des conférences, des sites internet dédiés, etc. Vraiment, les gens ont même essayé de lire le traité constitutionnel européen que j'avais lu deux fois à l'époque pour pouvoir faire des débats avec des responsables politiques. Le peuple s'est déplacé à 75%. Il n'y a pas beaucoup de députés qui sont élus avec une participation de 75%. Et le peuple avait voté non à 55%. Et on lui a dit quoi ? On lui a dit, ce sera oui. Voilà.
Non, mais c'est un traumatisme, ce référendum de 2005. Il revient régulièrement dans la bouche des auditeurs. Merci beaucoup, Francis. Là encore, c'était intéressant d'échanger avec vous. Vous êtes enseignant, vous habitez Nancy. On va poursuivre, évidemment, notre discussion. Parlons rugby aussi. Parlons de choses, pourquoi pas, un peu plus légères. Ça donne le moral, le rugby. Il y avait 6,5 millions de personnes qui ont regardé et peut-être écouté RTL en même temps. Samedi soir, match à 18h. C'est dire l'enthousiasme qu'il existe pour le rugby. Il y a quelque chose de vierge dans le rugby, quelque chose de beau parfois. Et cet essai du bout du périph qui faisait écho à l'essai du bout du monde d'il y a quelques années, c'était 1994, eh bien ça nous met du baume au cœur. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud
et Laurent Tessier.
L'Église catholique reconnaît les crimes de pédophilie. Elle veut assumer sa responsabilité devant la société en demandant pardon pour ses crimes et ses défaillances. La conférence des évêques de France est réunie en ce moment à Lourdes. Écoutez son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Nous éprouvons de la colère, mais surtout de la tristesse et de la honte. En pensant que des prêtres ont pu user du pouvoir que le Christ leur avait donné et que l'Église leur avait confié pour commettre des œuvres de mort sur des enfants et des jeunes.
Les évêques catholiques se sont mis d'accord pour verser aux victimes de pédocriminalité une contribution financière dont le montant sera forfaitaire. Vous pouvez réagir dès maintenant au 32-10. Du rugby ce soir, le 15 de France va-t-il remporter le tournoi des 6 nations ? Le dernier succès remonte à 2010. Les Français doivent surclasser l'Écosse au Stade de France et les calculs sont assez simples. Alors, les Bleus devront inscrire 4 essais, 1 point de bonus offensif, 21 points d'écart, ou bien 6 essais et 20 points d'écart. Voilà, vous avez tout retenu. Et selon notre baromètre Doxa RTL Winamax, 84% des Français ont une bonne opinion de l'équipe, comme Marc Lièvremont, l'ancien sélectionneur du 15 de France et vice-champion du monde. Il était l'invité de RTL Midi avec Christelle Robillard.
Elle suscite de l'enthousiasme, il y a des valeurs que l'on souhaite tous, la solidarité, l'abnégation. J'ai envie de dire que les contenus sont au moins aussi importants que ce titre et je suis convaincu que des titres, si ce n'est pas cette année, il y en aura d'autres dans les années à venir.
Et vous, cette équipe vous séduit-elle? Eh bien, Grégory, sur la page Facebook de l'émission, parle d'une belle équipe avec du cœur. Impossible n'est pas français pour Viviane. Cette équipe peut nous faire rêver. L'ange José, merci aux joueurs. Merci à Fabien Galthié, hein, qui a su redonner une dynamique à cette équipe. Fabrice, lui, parle d'un groupe qui ne triche pas, qui ne se cache pas. Vous savez, derrière des excuses ridicules, pas de joueurs surcotés, qui ont la tête comme une pastèque avec d'énormes courants d'air à l'intérieur. Et Thierry, lui, s'attend à un vrai combat ce soir. Ils vont mouiller le maillot. Allez, les Bleus.
Merci Laurent, les Américains ont eu le mérite dès l'été 2020, ils ont dit on met le paquet et on y va, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, ils ont eu plus d'ambition que nous et le quoi qu'il en coûte qu'on a appliqué pour les mesures d'accompagnement, eux l'ont appliqué pour les vaccins et la recherche, ça ce sont les paroles d'Emmanuel Macron. Nous sommes avec Philippe cette fois-ci qui habite Lille et qui est commercial et qui réagit sur les propos d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il aurait dû s'excuser ou pas? Bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour Philippe.
Écoutez, je pense que sur le fond, il a raison de ne pas faire son mea culpa. Par contre, sur la forme, comme souvent, il a tort. Parce qu'il le fait de manière trop abrupte, trop directe. Ça va encore renforcer son image de Jupiter, de roi soleil. Donc ça, c'est le seul tort que je lui donne. Par contre, face à ce fléau inédit, inconnu depuis un an, aucun pays n'a fait mieux que la France, sauf Israël et l'Angleterre qui ont vacciner massivement. Sinon, on voit bien depuis près d'un an, tout le monde se trompe. Quand on voit le défilé des scientifiques sur les différents plateaux télé, les différents gouvernants du monde entier, les laboratoires comme AstraZeneca qui se trompent là sur les livraisons, tout le monde s'est trompé. Et je trouve que c'est un peu fort de dire qu'il aurait dû reconfiner au mois de janvier, parce que n'aurait-on dit s'il avait reconfiné? Quand on pense déjà à ce que les gens pensaient et disaient avec le spectre du troisième reconfinement il y a quelques jours, je pense que c'est... De toute façon, quoi qu'il fasse, il sera toujours critiqué. Il pâtit de sa mauvaise image de marque et les gens lui tirent dessus pour un oui, pour un non, quoi.
Et vous, vous êtes dans quel camp?
Écoutez, moi, je suis restaurateur on est bien aidés, nous. Hein. Bon, il y a des gens qui le sont peut-être moins.
Oui, nous, c'est vrai que vous êtes... ça va, par rapport à d'autres, effectivement.
Nous sommes bien aidés. Et moi, c'est sûr que j'aimerais que mon restaurant rouvre, que les clients viennent. Mais vous savez, dans ce contexte, de toute façon, tant que le Covid sera là, il n'y a que 50% des clients qui viennent. Avec une table sur deux... on ne peut pas travailler, donc on perd de l'argent. Donc moi, je lui donne raison, c'est une situation inédite, c'est une situation compliquée, et personne n'a la science infuse, personne n'a la solution. Et que les laboratoires livrent leurs vaccins en temps et en heure, et là au moins, on pourra faire les choses correctement. Ça, c'est la base.
Non mais il y a au moins un bout du tunnel qui est entrevue, parce que la vaccination nous permet, on le voit d'ailleurs en Israël, où les indicateurs sont en baisse, où les gens, a priori, reprennent une vie comme avant. Donc ça, c'est extrêmement positif. On a un exemple de pays qui vit en direct une vaccination. Je crois qu'ils sont à 60% maintenant vaccinés, les Israéliens, et la vie reprend. Et la vie reprend avec tout ouvert. Donc on va voir, en espérant qu'un nouveau variant, évidemment, n'arrive pas, Philippe.
Bah oui, ça c'est. Mais bon, ça on peut pas maîtriser. Mais quand vous pensez qu'ils ont découvert à l'entrepôt 30 millions de vaccins en Italie?
Oui, alors ça c'est très étrange. Cette affaire de vaccination en Europe où on apprend que l'Union européenne a exporté. Et donc la France a exporté des vaccins et que nous en manquons. Donc ça. Alors hier soir, Emmanuel Macron a dit c'est terminé. On n'exportera plus de vaccins. Tant mieux! Mais peut-être est-ce trop tardif. 13h36, une pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et on a donc refermé le chapitre Covid. Je rappelle que la Covid-19 a tué en France 0,12% de la population. En Belgique, et un des taux les plus importants, elle a tué 0,19% de la population. Au Royaume-Uni, 0,18% de la population. En Italie, 0,16% de la population. Et aux États-Unis, 0,15% de la population. Ce sont des chiffres en pourcentage. Évidemment, c'est aux États-Unis, les chiffres sont beaucoup plus importants en valeur, parce qu'il y a près de 330 millions d'habitants aux États-Unis, comme vous le savez. On va parler de l'Église, et ça fait toujours beaucoup réagir lorsque l'on parle de ce sujet dans les auditeurs. L'Église catholique veut assumer sa responsabilité. Les évêques ont voté vendredi une résolution sur la pédocriminalité, affirmant que l'Église veut donc assumer sa responsabilité devant la société en demandant pardon pour ses crimes et pour ses défaillances. Nous sommes avec Frédéric. Bonjour Frédéric, vous êtes en Vendée.
Merci beaucoup, je suis heureux de parler à RTL. Je me rappelle mes jeunes années quand j'appelais...
Oh là là, j'ai l'impression que la ligne n'est pas très bonne. Nous allons la sécuriser, je vous propose. Véronique est là, en revanche, qui habite Le Mans. Et j'espère que la ligne est meilleure. Bonjour Véronique.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous attendiez ce message de l'Église catholique ?
Bah oui, quand même, depuis le temps qu'on entend parler effectivement de tout ce qui s'est passé, et puis qu'on sentait bien avec tout ce qu'on a entendu, que ça freinait des cas de fer, qu'ils avaient été protégés, etc. Je pense qu'il était grand temps qu'il y ait quand même reconnaissance de ce qui s'est passé. Enfin voilà. Mmh. Après, ils veulent dédommager. Bon, d'aucuns diront oui, mais bon, une vie foutue, on peut pas dédommager, comment on peut chiffrer ? Certes, mais de vouloir dédommager, c'est vraiment reconnaître qu'il y a eu effectivement des choses graves, et qu'on va, on va tenter, essayer de compenser un minimum. Et ça, je trouve que c'était hyper important, et bien entendu, tout le monde l'attendait, enfin, il me semble.
Vous êtes catholique ?
Oui.
Est-ce que ça a changé votre, votre regard sur l'Église ?
Tout à fait. Tout à fait. J'ai pris énormément de recul.
C'est-à-dire ?
Je ne vais plus quasiment dans les églises, parce qu'en fait, j'ai un espèce de rejet... Alors, je crois toujours, et moi je crois maintenant, et je prie entre guillemets quand je vais dans la nature, voilà, quand je marche, mais ces rassemblements de gens qui ont essayé de cacher, qui ont essayé de protéger les prêtres qui ont fait ça, moi ça me met hors de moi. Donc j'ai vraiment un rejet, tout en restant catholique, j'ai un rejet de tout ce que l'homme a fait, en fait, autour de ça. Parce que ce sont des hommes qui ont fait des choses qui sont immondes, et d'autres hommes qui ont essayé de cacher, de protéger. Donc ça me hérisse, quoi. Ça me hérisse, parce que c'est pas ça. Le catholicisme, c'est pas ça. C'est autre chose.
Bien sûr. Vous aviez vu le film Grâce à Dieu, le film de François Ozon. Souvent, on en a parlé ici en 2018, qui s'inspirait de l'affaire du père Bernard Prénat, et qui relatait le combat judiciaire mené par ses victimes d'abus sexuels sur des mineurs dans l'église. Est-ce que vous l'aviez vu, ce film ?
Oui, j'en ai vu beaucoup. Hein, j'en ai vu beaucoup, parce que moi, étant catholique, j'ai élevé 6 garçons et je les ai mis en camp scout, parce que à l'époque, effectivement, les camps scouts, c'était quand même, on estimait que c'était les mettre dans un endroit où ils allaient apprendre des valeurs, où ils allaient apprendre à se débrouiller. Et moi, mes enfants maintenant ont en plus de 30 ans et je leur ai dit, je m'excuse parce que j'aurais dû vous protéger, je l'ai pas fait.
Mais c'est intéressant de parler de cela aujourd'hui, le film Grâce à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Philippe Barbarin, qui était l'évêque de Lyon, avait dit dans une conférence de presse que les faits qui étaient reprochés au père Prénat étaient prescrits grâce à Dieu. Et le film, d'ailleurs, s'appelait Grâce à Dieu. Donc on voit bien le chemin qu'on a parcouru entre Philippe Barbarin, et je ne veux pas jeter l'opprobre sur lui, mais qui, au fond, se satisfaisait que ces faits soient prescrits, et aujourd'hui la reconnaissance de la pédophilie dans l'Église. Et là, il y a eu un chemin où la parole, selon la célèbre expression, s'est libérée.
Et moi, par chance, enfin, voilà, moi j'ai dit à mes enfants, s'il s'est passé quoi que ce soit, il faut en parler. Et bon, je pense pas, parce que ils m'ont dit non. Et puis bon, ce sont des garçons qui vivent normalement, qui ont une sexualité normale, qui n'ont pas l'air d'être effectivement troublés. Mais j'avoue que si j'avais subi, et si mes enfants avaient subi ça, mais là, je serais révoltée. très révoltée. Mais
bien
parce
sûr,
que
bien sûr.
C'est quand même un endroit où on pensait que nos enfants étaient effectivement entourés, protégés, et on les mettait effectivement au camp scout, mais sans aucune arrière-pensée. Pour nous, c'était mieux que les colonies, effectivement, de la mairie, quoi. Alors là, c'est non seulement les enfants ont été, je dirais, traumatisés, mais les parents ont été trompés. Donc c'est
non, bien sûr. Ce qui s'est passé, et, c'est horrible. Bien sûr. Et aucune plainte, c'est ça qui était fascinant dans cette période-là, aucune plainte n'avait été déposée par les parents à l'époque, ce qui est absolument incroyable. Ouais. Merci beaucoup Véronique de ce témoignage. Janvier est là, bonjour Janvier.
Bonjour.
C'est votre prénom Janvier?
Oui, comme Saint-Janvier.
Ben oui, mais c'est un prénom qui n'est pas courant.
Exactement.
Et j'imagine que vous avez peu rencontré, vous avez 25 ans, de garçons qui s'appelaient Janvier dans les classes.
C'est vrai, non, il n'y en a pas eu beaucoup.
Écoutez, je crois que c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui s'appelle Janvier.
Au moins, vous ne m'oublierez pas.
Bah oui, alors il y avait Janvier, mais ça c'était dans...
La traversée de Paris.
Dans la traversée de Paris. Janvier. Mais là, c'est Janvier. Donc, oui. Bah, écoutez, bravo pour ce prénom original. Vous êtes catholique, Janvier?
Oui.
Et donc, vous avez été. Vous avez écouté avec intérêt. Mais et surtout, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, ce qu'ont décidé les évêques de France?
Bien sûr. C'est une bonne chose, tout simplement, parce que dans la croyance, dans notre foi catholique, il faut avoir quand même cette démarche d'humilité, cette démarche de pardon. Lorsque l'on commet des erreurs, et beaucoup d'hommes d'église ont commis des erreurs, et donc c'est important aujourd'hui de pouvoir dédommager les victimes, de pouvoir prendre en main ce problème qui est quand même un fléau aujourd'hui dans l'église catholique en France, même en Occident.
C'est d'ailleurs au-delà d'une erreur, c'était un crime, hein,
un
crime sexuel, ce que ont fait tous ces prêtres. Mais qu'est-ce que ça change pour le catholique que vous êtes?
Qu'est-ce que ça change? Tout simplement, ça nous apporte quand même du réconfort, dans le sens où on se dit, bah, nos évêques ne dorment pas. Ils prennent quand même en charge, ils prennent quand même conscience de ce poids, de ce fardeau, ce regard vis-à-vis des victimes qui ont tout de même subi des atrocités et qui ont vécu dans un silence. Et aujourd'hui, on se dit, bah, l'Église, c'est quand même c'est une institution religieuse mondialement connue. Et si elle ne reconnaît pas ce type de problème, ben, nous, en tant que catholiques, comment allons-nous faire? Et donc, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un soulagement. Un soulagement de demander pardon à toutes ces victimes qui ont été blessées. Et ça nous permet petit à petit de pouvoir avancer pour que ces problèmes puissent ne plus se reproduire à l'avenir.
Dans votre itinéraire personnel, vous avez été parfois confronté par des témoignages ou vous-même à un comportement qui vous avait étonné à travers les activités que vous pouviez mener avec des personnes d'église?
Non, personnellement, non. J'ai pas connu de responsables d'église, ni même de laïcs, de consacrés qui ont commis ce type d'action. Non, j'ai jamais été confronté à cela.
Merci Janvier pour ce témoignage. Je rappelle que la veillée pascale ne pourra pas avoir lieu cette année. Il n'y aura aucune dérogation. Je ne sais pas comment le catholique que vous êtes vit cette période. Janvier, la veillée pascale, c'est toujours dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques. Le jour de Pâques est le jour le plus important pour les catholiques. C'est la résurrection. Beaucoup plus important que le jour de Noël. Et cette année, il n'y aura pas de veillée pascale comme il n'y en avait pas l'année dernière, Janvier.
Exactement. Bah moi, j'ai suivi notamment votre intervention sur CNews et j'étais totalement d'accord avec vous. Enfin, moi, je me dis quand même, c'est Pâques, c'est la plus grande fête en tant que chrétien, mais même au-delà du christianisme, pour nous, c'est la plus grande fête de l'humanité. Personnellement, je me dirais quand même, il faut que nos évêques puissent prendre la parole. Il faut que nos évêques puissent, entre guillemets, se bouger, parce que c'est pas normal. Aujourd'hui, je considère personnellement que l'Église est au chevet de la République, est au chevet du gouvernement, est au chevet de la laïcité. Et ça, c'est pas normal.
Ben merci Janvier de cette intervention. Il est 13h48. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Comme tous les gens qui se lèvent tôt, je ne suis pas un grand fan de l'heure d'été, puisque lundi, on va souffrir, forcément.
Et c'est
parce qu'on va on va dormir une heure de moins. Mais surtout parce que nous nous levions ces derniers jours, ou en tout cas, nous sortions de chez nous en plein jour, et là, on va retrouver la nuit.
Bon, bah très bien. Vous avez répondu à ma question. Vous êtes plus heure d'hiver ou heure d'été. Attention, nous passons à l'heure d'été ce week-end. À 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, les horloges avanceront de 60 minutes, il sera 3h. On dormira donc une heure de moins. Et c'est toujours le même cinéma, critique Mickaël sur la page Facebook de l'émission. J'ai horreur du changement d'heure, lance Mireille. Que l'on prenne une décision une bonne fois pour toutes entre les deux, cette affaire devrait être réglée depuis longtemps. Joséphine, elle adore l'heure d'été, c'est le retour du beau temps. L'heure d'hiver, c'est le retour du froid. Et bien dites-nous votre avis au 3210 dès maintenant. Le cinéaste Bertrand Tavernier nous a quitté hier à l'âge de 79 ans. Grande personnalité du cinéma français, artiste engagé et reconnu à l'étranger. Quel film restera dans votre mémoire? Appelez-nous dès maintenant au 3210 3210.
Il est 13h52, nous sommes avec Frédéric, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Pascal.
Oui.
Ça me fait plaisir de vous entendre, ça me rappelle mes jeunes années, quand j'appelais André Torrent pour le hit parade. Donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, je suis né en 64 comme vous.
Oui. Et André Torrent, il était l'autre jour avec Éric Jean-Jean sur l'antenne, et régulièrement d'ailleurs, André Torrent, il vient parler à RTL, et personne n'a oublié ni sa voix, ni son
une
physique.
Une voix radiophonique extra, comme
tiens,
vous.
Tiens, j'ai un jingle pour vous, regardez. Voilà, c'est Greg Caradoni qui nous propose André Torrent qui animait le top 50, mais le hit parade à l'époque,
exactement,
le hit parade
absolument.
D'André Torrent.
Tout à fait, j'appelais pour gagner 3 disques des 45 tours, absolument, et c'est mes derniers contacts avec RTL. Je suis content de vous parler aujourd'hui. Donc,
bon, vous allez nous parler de l'Église.
Oui, parce que je dis enfin, la colère de Monseigneur de Moulin-Beaufort est ultra saine. L'Église catholique se serait grandie en étant en première ligne sur ces sujet-là, en faisant preuve de lucidité et de clairvoyance, et après les gaffes que vous rappeliez tout à l'heure de certains, elle a mis enfin elle s'est mise face à la nécessité de voir les choses immédiatement efficacement, et ça on peut dire que des femmes laïques ont aidé le clergé très masculin à réfléchir sur ces questions, alors que jusqu'alors ils avaient énormément de retard, parce que ils voulaient protéger l'institution plus que protéger les victimes, et lorsque j'entends certains catholiques dire « Ah, mais on attaque beaucoup moins l'enseignement national. » Ben oui, mais l'enseignement national a fait son mea culpa d'une certaine manière aussi, trop lentement aussi, mais d'une certaine manière. Et l'Église catholique, je le répète, se serait grandie à être proactive sur le sujet. Ils se disent, sachant sur les problèmes de sexualité, sur les problèmes de mariage pour tous ou pas, sur les notions de péché, je ne sais où, et là, ils sont complètement en arrière de la main. Donc enfin une prise de position claire et que j'espère que le clergé catholique va pouvoir enfin parler de spiritualité, non pas de sexualité. C'est la sexualité d'hommes qui se la refusent, c'est pas leur premier sujet. En revanche, leur premier sujet, c'est d'être complètement transparent, c'est d'être au secours des victimes et c'est de dénoncer tout fait immédiatement. Et je pense qu'un grand pas a été effectué.
Vous êtes catholique vous-même ?
Je suis chrétien. Absolument. Catholique, je m'en suis un peu éloigné. J'ai beau avoir un arrière-grand-oncle évêque.
Et vous avez trouvé.
J'ai été un tout petit peu déçu, justement.
Et donc
vous
allez vers le protestantisme ou vers une autre.
Non, parce que je suis aussi beaucoup très intéressé par l'orthodoxie.
Oui.
Je suis très intéressé par le protestantisme. Mais je me dis que le christianisme, c'est ça la force du message. Les petites les confessions, c'est secondaire. Moi, j'aime pas qu'on me dise être de religion catholique. On est de religion chrétienne. Et il y a les confessions catholiques et orthodoxes protestantes, effectivement.
Bien sûr. Et on l'oublie trop souvent. Et tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques.
Exactement. Et nous fêterons Pâques, hein, aussi. Enfin, il y a des protestants qui sont extraordinaires, qui ont compris que les femmes pouvaient être ordonnées, que chacun pouvait jouer un rôle au sein de l'Église. Et l'Église catholique me fait penser parfois au Kremlin qui fermait sa porte avant Gorbatchev. Le pape François essaye d'ouvrir, mais il a encore des cardinaux masculins qui sont très très frileux. Et heureusement que les évêques de France sont dans une nouvelle énergie aujourd'hui. Les évêques catholiques de France. Voilà.
Merci beaucoup Frédéric. Sébastien est là également. Sébastien qui sera sans doute le dernier témoignage sur ce sujet. Bonjour.
Bonjour.
Vous habitez Briançon.
Merci de m'accueillir.
Je vous en prie.
Alors, je vais tenir un discours qui va peut-être être différent de celui que vous avez entendu. Pour tout vous dire, je suis christique, chrétien, et je pratique le rite catholique de l'Église catholique romaine. Il est certain qu'il y a eu des exactions durant de nombreuses années, que notre nouveau pape donne une impulsion et permette d'effacer ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. C'est une excellente chose. Que nous fassions notre mea culpa, c'est parfait. Je souhaiterais qu'on précise qu'il existe deux églises différentes au sein de l'Église catholique romaine. Il existe l'Église séculière et il existe la Curie. La Curie a toujours voulu protéger ceux qui avaient pu commettre les exactions dont nous parlons. Le clergé séculier, celui qui est en place, moi j'ai la chance d'avoir comme prêtre le père Bardet, que vous connaissez sûrement, qui chantait avec les trois prêtres.
Sébastien, ce que je vous propose, c'est que comme ça va être l'heure du flash et que j'ai le sentiment que votre démonstration réclame un peu de temps, je vous propose de rester avec nous et à 14h02 ou 14h03, nous poursuivrons cette confession. Non, cette démonstration.
C'est presque une confession. Je veux bien que ce soit une confession. Je vous attends.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Dans les gares, les aéroports et les péages, les contrôles de police renforcés dès aujourd'hui, annonce Matignon. L'objectif, faire respecter l'interdiction de déplacement interrégion dans les 19 départements reconfinés. Le gouvernement prépare un nouveau protocole dans les établissements scolaires. Le nombre de contaminations a bondi en une semaine parmi les élèves, de 15 000 à 21 000. En Ile-de-France, le principal syndicat des enseignants dans le primaire, le SNUIPP, appelle à la grève le 6 avril prochain pour réclamer des moyens supplémentaires. Les infirmiers, les vétérinaires, les dentistes, mais aussi les manipulateurs radio, plus de 250 000 professionnels de santé supplémentaires vont pouvoir vacciner contre la Covid. La Haute Autorité de Santé a rendu un avis positif ce matin. L'Église catholique veut assumer sa responsabilité auprès des victimes de pédophilie. Elle va leur verser une contribution financière, décision annoncée par la Conférence des évêques de France réunie aujourd'hui à Lourdes. En rugby, la fin du tournoi des avec le choc ce soir entre la France et l'Écosse, les Bleus peuvent encore remporter la compétition. Ce serait une première depuis 2010. Coup d'envoi à 21h. Grande soirée autour du service des sports dès 20h sur RTL. On parlera également foot deux jours avant Kazakhstan-France. La météo. Et le retour demain du beau temps sur la moitié sud avec un grand soleil. Sur la moitié nord, il faudra encore attendre un peu. Ciel souvent nuageux avec quelques averses. Les températures demain matin, elles seront comprises entre 0 à Aurillac et 11 à Perpignan. Dans l'après-midi, il fera 12 à Lille, 13 à Rennes, 15 à Lyon et 18 à Marseille. Les courses pour finir, c'est à Vincennes en semi-nocturne. Aujourd'hui, je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 13, le 8, le 4, le 9, le 3 et le 6. Sa dernière minute, c'est le numéro 8. Étoile de la Loge.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
C'est un rendez-vous habituel et c'est un rendez-vous enchanteur puisqu'il vient nous visiter chaque vendredi pour donner le programme dont défait le monde, Cyprien Signy. J'ai déjà le sourire quand je vous vois.
J'apporte le sourire, mais vous me l'apportez aussi, Pascal. C'est une joie de venir dans les auditeurs ont la parole.
D'abord, on a une petite pensée pour l'ami Stéphane Carpentier.
Ah bah oui, qui est toujours en repos.
Exactement, et ce soir, ce sera Olivier Bois qui sera aux commandes.
Tout à fait, c'est une première, on va le baptiser. Bah, écoutez,
mais la semaine dernière, c'était aussi une première.
Oui, mais c'était Amandine Bégaud la semaine dernière. Bah, on tourne. Alors,
j'ai adoré le générique de la semaine dernière.
Avec Ophélie Meunier.
Ah oui, le générique était formidable. Je ne sais pas ce que prépare Greg Caradenis aujourd'hui, mais ouais, c'était formidable. Ça va être ça,
je pense. Bon, je crois que plus personne ne veut travailler avec nous, parce que toutes les semaines, on change d'encorman.
C'est vrai que c'est un peu bizarre.
Le présentateur. Bon, le programme, ami.
Alors, on va se projeter dans le monde de demain. C'est-à-dire qu'on va aller en Israël, notamment, voir comment ça va se passer pour nous quand tout le monde sera vacciné. Vous voyez est-ce qu'on va continuer à porter des masques? Est-ce qu'on va continuer à avoir des distanciations sociales, physiques? Est-ce qu'on pourra aller au restaurant? Et puis là, on va vous donner aussi un petit...
espérer quand même.
Ben, j'espère, mais attendez, c'est pas si simple. Ensuite, on va vous donner un petit cours de sophrologie, de respiration. On va vous aider à aller mieux. Parce que beaucoup d'anxiété en ce moment, beaucoup d'angoisse, je le vois dans vos yeux, Pascal, d'ailleurs. Donc là, on va convoquer un psychologue et il va nous aider à et donner quelques trucs et astuces pour aller mieux. On reviendra aussi sur ce canal de Suez bloqué. Vous avez vu ça ?
Bien sûr, avec ce bateau.
Ce bateau extraordinaire.
Incroyable.
Voilà.
Incroyable, le bateau.
C'est un peu le loser de la semaine. Et puis, donc on va en parler, évidemment, parce que c'est drôle. Mmh. Et puis, il y aura un surf de la semaine, il y aura plein de joie et de bonne humeur, et un cadeau énorme. Une semaine, un week-end de vacances en Corse, dans un hôtel 4 étoiles.
Mais oui, mais on ne peut pas voyager.
Bah,
on n'a pas le droit de sortir. Donc
dans le monde de demain, on pourra.
Mais
ami.
Quand ?
Je sais pas quand. Demandez à Emmanuel Macron. C'est pas...
Bon, et vous, alors, vous ne bougez plus le week-end.
Moi, c'est l'enfer.
Vous n'avez plus le droit de quitter Paris.
Non, bon. Moi qui adore Paris.
Bah, écoutez...
Je suis marseillais de naissance, hein, je le rappelle à nos auditeurs. Ah, Paris, quelle ville formidable.
14... J'insiste un peu, mais le cadeau sera exceptionnel.
Non, c'est vrai,
vraiment exceptionnel.
Ouais.
Ah oui, il sera fou.
Merci Cyprien Sini.
Bonne nuit.
13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Alors, on était avec Sébastien, mais j'ai l'impression que Sébastien veut défendre l'Église et il tournait autour du pot. Il y avait des circonvolutions. Donc, il y avait une entame et une introduction que j'ai trouvée un peu longue, Sébastien, pour que vous exprimiez vraiment votre avis sur la reconnaissance par les évêques des faits de pédocriminalité. J'ai le sentiment qu'au fond, ça ne vous plaît pas tellement.
Alors, je reconnais que je suis prolixe et je vais essayer d'être beaucoup plus concis. Il y a juste un élément que je ne vous ai pas donné, c'est que j'ai également eu l'occasion, de manière professionnelle, de travailler avec les évêques de Monseigneur Lustiger.
Mmh. Voilà. Comme ça, non, mais j'ai le sentiment que vous êtes pour, comment dire, une non-reconnaissance de ces
Absolument
faits-là.
Absolument pas.
Ah bon ? Bah alors, expliquez
Absolument
votre avis.
Absolument pas. Je suis un des plus fervents adeptes de la lutte contre la pédocriminalité, sous quelque forme que ce soit, et je ne sais même pas si ma foi, qui est profonde, me permettrait de donner le pardon à des gens qui touchent à des enfants. Voilà. C'est le
bon, donc vous trouvez très bien que l'Église reconnaisse ses torts. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc j'ai envie de dire, pourquoi vous nous appelez ?
Sur ce problème-là, il n'y a pas de problème. Simplement, ce que je veux dire, c'est que je voudrais bien que les auditeurs entendent qu'il existe deux parties dans l'Église. La curie qui, elle, protège le rite.
Bon, la curie, c'est à Rome. Hein, c'est des administratifs, c'est ça. C'est le personnel
c'est
qui travaille. Oui, mais...
Et je ne voudrais pas que ce soit stigmatisé, parce que je sais comment l'information peut être tournée et comment... On peut entendre sur plusieurs niveaux de discours le prêtre, pardonnez-moi pour eux, le prêtre de base qui fait son métier, qui est là quasiment 24 heures sur 24 à répondre et qui correspond à l'immense majorité.
Sébastien, c'est pas très clair ce que vous voulez dire. Je ne sais toujours pas ce que vous voulez dire, si vous me permettez.
Alors, je dis que le fait de...
Ou je comprends un peu ce que vous voulez dire, peut-être.
Alors, formulez-le mieux.
Ah ben, non, mais je vous l'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire ? C'est bien ou c'est pas bien ?
C'est bien dans la mesure où, d'une part, il faut effectivement que ces actes soient dénoncés.
Bon, bah alors, la discussion s'arrête, très bien.
C'est mal dans le sens où les prêtres qui se trouvent dans leurs différents évêchés vont se retrouver... comme des nouveaux boucs émissaires de la pédophilie.
Oui, mais qu'est-ce que l'Église avait qu'à, les représentants de l'Église avaient qu'à mieux se tenir, et c'est un catholique qui vous dit cela. Donc, évidemment qu'il y a des dégâts collatéraux, évidemment que l'image de l'Église est attaquée.
Est-ce que vous pensez que seule l'Église est confrontée à cette problématique ?
Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème.
D'accord.
Qui
bien,
dit ça ?
J'entends.
Ce n'est pas le problème. Bon, merci Sébastien.
C'est toujours une manière
d'excuser ou de vouloir pas faire, de dire les autres l'ont fait. Ben, ce n'est pas le problème. Pas le problème.
Le problème, c'est que lorsque... L'Église l'a fait, mais je pense que c'est quelque chose qui est devenu véritablement...
ceux qui veulent attaquer l'Église, ils s'en servent, bien sûr. Bien sûr. Mais je crois que on gagne toujours à être...
transparent.
Exactement. Quoi, transparent. En tout cas, à reconnaître ses torts. Voilà, ce qui est un peu différent. Parce que personne n'est transparent. Mais reconnaître ses torts, c'est un peu différent. Merci Sébastien. Et on termine le chapitre de l'Église. Vous aimez le rugby ?
J'adore, mon fils y joue.
Eh bien écoutez, on va parler rugby.
Alors, parlons rugby.
Après la pause, à tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les Français vont-ils remporter le tournoi Destination? Vont-ils battre l'Écosse ce soir? Mais ça ne va pas être simple. Les calculs sont assez simples pourtant, puisqu'il faut 4 essais, 1 point de bonus offensif et 21 points d'écart. Ou alors 6 essais et seulement 20 points d'écart. À ce moment-là, la France remportera le tournoi et doublera le Pays de Galles qui a 20 points et une différence positive de plus 61. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en tout cas, Joseph, lui, qui est dans le Calvados, connaît ça très certainement par cœur. Bonjour, Joseph.
Bonjour à tous. Bonjour, Pascal. C'est un plaisir de vous entendre. Ça fait longtemps que... Enfin, de vous avoir. Ça fait longtemps que j'essaie et j'arrive pas. En tous les cas, en ce qui concerne le rugby ce soir, j'ai une grande confiance dans l'équipe de France, quels que soient les calculs à faire ou à ne pas faire d'ailleurs, il faut mieux pas les faire, on verra à la fin, mais c'est une équipe qui est formidable. J'ai rarement vu une équipe aussi vaillante, valeureuse, être capable de faire tout ce qu'elle a fait dans les 10 dernières minutes. Dans le dernier match, là, j'ai été complètement ébahi, resté sur le... Voilà, sur le cul dans la chaise, voilà.
Bah on a retrouvé effectivement une équipe de France qui est offensive, et effectivement, après beaucoup de difficultés et oui. de combats perdus ces dernières années, Fabien Galthié...
Ouais, on n'a plus du tout la même équipe, on a des joueurs qui en veulent. Les noms, je ne les connais même pas trop.
Vous connaissez Dupont quand même?
Oui, bien sûr, oui.
Super mais Dupont
Oui, j'en connais d'autres Dupont.
Oui.
Mais c'est une équipe qui est superbe. Mmh. Elle est capable. Elle me donne l'impression d'être capable de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc c'est pour ça que j'y crois ce soir. J'ai rarement vu vous savez, j'ai presque 70 ans, hein. Il y a longtemps, j'ai vu les Jean-Pierre Rive et ces hommes-là. Mais j'ai vu vraiment des matchs internationaux spectaculaires, engagés. Mais là, j'ai une équipe qui me plaît beaucoup, beaucoup plus encore.
En tout cas, c'est dès 20h à suivre hein, sur RTL ce soir, le match en direct du Stade de France avec Jean-Michel Rascol, évidemment, qui commentera cette possibilité. Il y a un suspense formidable, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, il y a 6,5 millions de personnes qui ont regardé le match à 18h samedi dernier. Bon.
Ah, oui.
Mais là, il y a un suspense merveilleux parce qu'il faut aller marquer 4 essais et il faut 20 points ou 21 points d'écart. Donc,
oui,
je regrette vraiment qu'il n'y ait personne dans le stade parce que ça pourrait être absolument magnifique comme ambiance. C'est une sorte de remontada.
C'est ça la joie de cette équipe-là, c'est qu'ils en sont capables. Alors, s'il y en a un qui m'écoute, je félicite toute l'équipe à l'avance et puis je suis sûr qu'on va y arriver.
Bah, c'est la meilleure défense. Je ne suis pas un grand fan, un grand spécialiste du rugby. Je suis un fan, mais pas un grand spécialiste. Oui, mais là, ça ne va pas être simple puisque c'est la meilleure défense du tournoi, l'Écosse.
Ça n'a pas d'importance.
Ah bon.
L'équipe de France, elle passe là où elle a choisi. Donc, j'y crois.
Bon, bah, merci beaucoup, Joseph, qui habitait qui nous appelle du Calvados.
Falaise.
Vous êtes où?
Falaise, près de Caen.
Bien sûr, je connais. Merci, Joseph. Frédéric est là. Bonjour, Frédéric. Vous êtes cuisinier.
Bonjour Pascal. Comment allez-vous?
Bah, et vous?
On s'est déjà eu plusieurs fois au téléphone.
Bon, vous êtes cuisinier, donc en ce moment, vous êtes au repos forcé?
Oui, enfin, repos maladie. Enfin, bref, quoi. C'est pas repos maladie. Voilà.
Bon, ce soir, vous allez être devant votre poste et à l'écoute d'RTL.
Oui, bien sûr. RTL et... Alors moi, je reviens avec Joseph. J'y crois sans y croire, mais je crois à cette équipe. Parce que... C'est de la façon qu'ils jouent. Je suis dans le Nord, j'habite dans le Nord.
Mmh.
Et nous, on a des vertus. Et je suis je ne vais pas parler trop de cette équipe. Je suis un fan du Racing Club de Lens.
Mmh.
Et comme le Racing Club de Lens, ils se battent comme cette année. Ils se battent avec leurs valeurs. Et cette année, j'ai retrouvé une équipe de football que j'aime. J'ai retrouvé une équipe de France de rugby que j'aime. Et c'est ça que j'admire.
Ben, les gens sont sensibles à ça, à l'état d'esprit. Je suis toujours frappé de ça, et c'est normal d'ailleurs.
Et quoi que le résultat fasse, j'ai regardé tous leurs matchs de cette saison,
Ils se sont vraiment battus avec leurs valeurs, ce qu'ils avaient, même si toutefois ils étaient plus forts que nous, comme à Lens on a perdu des matchs, mais au moins ils se battent. Et c'est ça qu'on adore, par rapport à d'autres équipes ou d'autres sports où bah, une fois qu'ils laissent tomber. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et je sais que ce soir, ils vont donner leur meilleur d'eux-mêmes. Et je suis sûr qu'à la fin du match, quel que soit le résultat, je vais les applaudir.
Ben écoutez, c'est voilà. Beau. Vous êtes un vrai supporter, Frédéric.
Ah oui, je suis depuis 47 ans à Lens. J'habite à côté de Lille, mais je vais toujours à Lens. Et en même temps, je dis un petit message, bonjour au good boy de Waterloo Tourcoing en même temps. Et voilà, et l'équipe de France de rugby me donne cette envie de les regarder, de se battre comme ils ont fait. Voilà. Dommage que voilà, il n'y a pas une autre équipe de France qui s'est battue comme ça cette semaine. C'est dommage, mais bon, voilà, je pense qu'ils vont... Ils vont nous rendre l'appareil dimanche. Ils vont nous rendre l'appareil dimanche, je pense. Mais ça, qu'est-ce que c'est agréable à voir. Qu'est-ce que c'est beau. Des gens qui se battent jusqu'au bout. Voilà. C'est...
Merci beaucoup. Merci. Vraiment, on sera avec Jean-Michel Rascol après la pause. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Un dernier auditeur, peut-être sur le rugby, Stéphane, qui est speaker du club de Vannes de rugby. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pascal.
Votre avis, ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont réussir à marquer 4 essais et gagner par 21 points d'écart?
Alors, si vous voulez ma réponse de chauvin français, je vais dire oui. Je vais analyser plus rugbystiquement, ça va être très dur. Voilà, je pense que ça va être très dur. N'oublions pas que c'est les Écossais en face quand même. Ils jouent la deuxième place. Ils ont un challenge. Et je pense que, franchement, les Écossais vont aussi faire un gros match ce soir.
Ce qui est terrible, c'est que l'équipe de France à Twickenham était à deux doigts de pouvoir remporter quasiment le Grand Chelem, ce qui aurait été une première depuis bien longtemps.
Oui, tout à fait. Mais quand on regarde cette débauche d'énergie contre les Anglais, contre le Pays de Galles, où on n'a pas joué déjà depuis, on a loupé un match, il me semble. Hein. Je pense que cette débauche d'énergie contre le Pays de Galles va peut-être faire que les Gallois, eux, je sais pas. Je souhaite bien évidemment que le 15 de France gagne. Hein. La question n'est pas là, mais mettre 4 essais et gagner plus de 21 points, j'ai un doute.
Bon ben, on va demander à Monsieur Rascol, qui va commenter ce match. C'est un des matchs peut-être les plus excitants à commenter, Jean-Michel, parce qu'il y a un côté remontada qui existe rarement dans le rugby, disons-le. C'est très rare, ça.
Oui, c'est arrivé en Coupe d'automne la dernière fois au mois de novembre, où il fallait effectivement jouer une finale à Twickenham qui était perdue d'avance et où les Français ont bien failli remporter la victoire. Mais c'est vrai que ce suspense XXL est très excitant et l'auditeur précédent a parfaitement bien résumé la situation. Il faut marquer 21 points, 4 essais ou 20 points, 6 essais à la meilleure défense du tournoi, dont on se rappelle qu'en Angleterre, lors de la première journée, elle avait gagné à Twickenham justement après un chef-d'œuvre défensif. Donc c'est l'étendue de la tâche qui attend ce 15 de France ce soir, mais sait-on jamais si il y a le même peps, si l'on peut dire, que lors des 10 dernières minutes face au Pays de Galles. Tout est possible. On balaye les schémas, on balaye les idées reçues, on joue avec son cœur, on joue avec ses tripes, et à la fin, parfois, eh bien, c'est peut-être le 15 de France qui peut l'emporter.
Ben merci Jean-Michel Rascol. 20h, hein, prise d'antenne avec tout le service des sports.
20h, prise d'antenne avec tout le service des sports. Coup d'envoi à 21h avec deux spécialistes, notamment Yann Borswick, notre confrère néo-zélandais, et puis Gilles Navarro, l'une des plumes du rugby français, qui nous éclairera de tout son savoir.
Merci, ami Jean-Michel.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ça aurait été dommage de ne pas parler de l'heure d'été et de l'heure d'hiver pour la 40e année quasiment consécutive. Et c'est en 74, hein, je crois, que ça a commencé. Donc ça fait 47 ans exactement. Et c'est Jean-François qui est là. Bonjour Jean-François. Heure d'hiver ou heure d'été?
Oh ben moi, heure d'hiver, bien sûr. Ce qui est déjà une heure d'avance sur leur solaire, hein, sur leur GMT. Si on mettait l'heure d'été fixe, ça veut dire que l'hiver, le soleil va se lever à 10 heures. Enfin, c'est un non-sens.
Ça, c'est sûr. Vous vous levez tôt, peut-être?
Pardon?
Vous faites partie des lève-tôt?
Oui, relativement, mais enfin, me lever la nuit l'hiver, je trouve pas ça très agréable.
Non, parce que moi j'ai l'impression que les lève-tôt sont plutôt pour l'heure d'hiver, et oui. Évidemment les couches-tard sont plutôt pour l'heure d'été. Non.
Je vois pas pourquoi on fait vivre Paris à l'heure de Varsovie.
Non, mais moi je suis d'accord avec vous, ça me fatigue cette heure d'été, je suis, et ça me met le moral dans les chaussettes, mais bon, c'est comme ça.
Moi aussi, enfin, nous sommes quand même des animaux terrestres, si vous me le permettez, et nous vivons à l'heure solaire. Nous décaler comme ça, c'est un non-sens.
Mais a priori, les Français souhaitent le maintien de l'heure d'été. S'il n'y avait qu'un horaire, qu'une heure qui...
Les Français, comme plein d'autres choses, ils ne réfléchissent pas. Il suffit qu'ils se projettent en hiver. Quand il faudra lever les enfants la nuit, pour les emmener la nuit à l'école et que le soleil va se lever à 10 heures, vous allez les entendre.
Mais pourquoi vous dites à 10 heures? Ça ne serait pas à 10 heures quand même.
Prenez une table solaire. Oui, bon, le soleil se lève à peu près à 9h30 si on garde 2 heures d'avance sur le solaire.
Je vais chercher ma table solaire.
Vous êtes sûr? Parce qu'en ce moment, par exemple, le 25 décembre, par exemple,
oui.
Le soleil se lève, je pense, à 8h15, 8h30, plus tard que ça, à Paris.
Oui, alors ça va vous faire 9h30 si vous gardez l'hiver.
Ah oui, ça fera 9h30, vous avez dit 10h, c'est pour ça que ça me paraissait...
Oui, mais enfin bon, à 10h, il fera quand même pas très jour. Hein.
Oui, je peux entendre ce que vous dites, mais faudrait voir le 25 décembre, et il est en train de vérifier à quelle heure se lève le soleil, le moment où, dans le solstice d'hiver, où on est à 16h donc, de nuit mais et 8h de jour.
Pourquoi ne vivrions-nous pas à l'heure solaire ou à peu
mais
près
faut pas me convaincre moi, Jean-François.
Bon. C'est déjà ça.
le débrief de Laurent Tessier va arriver dans quelques instants. Mais vous êtes plutôt... vous êtes en retraite, donc au fond, ça va pas beaucoup changer votre emploi du temps, parce que vous faites un peu ce que vous voulez, vous vous levez et vous couchez à l'heure que vous voulez.
Je suis en retraite, je continue à bosser, je continue à faire du conseil, je vis dans mon siècle. Voilà quoi.
Greg Caradoni.
Alors j'ai regardé le 21 décembre 2020, le soleil s'est levé à Paris à 8h43.
Ah oui, bah il a raison. Ça fait 9h43.
Ça fait
9h43,
vous avez raison. Si on regardait l'été.
Eh bien Jean-François, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que ça, c'est un bon argument. Vous vous rendez compte que le soleil se lèvera à 9h43 en plein hiver. Non, très bon argument. Vous voyez, même moi j'ai été surpris, je ne pensais pas que c'était... Effectivement, ça n'aurait pas de sens. De se lever à 10h. Merci Jean-François.
C'est vraiment ce que je voulais dire. Voilà,
eh ben vous l'avez bien dit et croyez-moi, vous avez été efficace. Je n'oublierai pas ça, croyez-moi. Très bon argument. Merci, le débrief.
Je vous en prie.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Emmanuel Macron a-t-il eu raison de ne pas reconfiner le pays fin janvier? Le chef de l'État a été très direct hier soir à l'issue d'un Conseil européen.
Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays? Non. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec.
Alors, mea culpa ou non, tiens, qu'en pense David du côté du Mans?
Qu'il fasse des excuses ou pas, ça va rien changer. Moi. Pour moi, ça ne changera rien du tout. Je m'empêche pas de vivre.
Et je peux vous dire que David en a marre de cette période, de ces restrictions sanitaires.
Faire de la marche à pied, je veux bien, mais il y a un moment... je vais pas faire les JO quoi, à force de marcher quoi. On a envie de voir des gens,
Bon Philippe, mea culpa ou pas?
Je pense que sur le fond, il a raison de ne pas faire son mea culpa. Par contre, sur la forme, comme souvent, il a tort. Parce qu'il le fait de manière trop abrupte, trop directe. Ça va encore renforcer son image de Jupiter, de roi soleil.
Et je ne sais pas vous, mais ça fait un petit moment que nous n'avons pas écouté de musique dans l'émission.
J'ai vu que c'était l'anniversaire de Rock Voisine aujourd'hui.
Ah, rien ne vous échappe.
Mais encore, Pascal.
Voisine. C'est quoi? C'est un message pour écouter un petit peu de Rock
pas
Voisine
du tout,
mais je vous connais par cœur. Bien sûr que
quand on est le vendredi, on a le droit d'écouter un peu de musique.
Sur le sable, les yeux dans l'eau.
Oui, c'est vrai qu'on écoute que de la musique le vendredi. Qu'a-t-on fait déjà hier?
Elton John. Son anniversaire, donc on lui fait la fête.
Happy birthday! Musique dans les auditeurs ont la parole. Et dans la nuit de samedi à dimanche, nous changeons d'heure à 2h. Nous passerons directement à 3h. Et si ce n'est pas automatique, veillez à bien changer l'heure de vos différents appareils. Le plus important, comme dirait Emmanuel Macron,
il est parfois bon aussi de savoir être maître des horloges.
Le conseil est pris. Nous sommes le 26 mars. Donc comme nous vous en parlions hier, si vous souhaitez avoir un bébé à Noël, c'est le bon moment, n'est-ce pas Flavie?
Vous savez que l'un de mes fils est né le 23 décembre.
Ah oui, donc...
Donc quoi?
Bah donc
tagadac boum boum à cette période.
Oh, bon tagadag boum boum à tous les amis. Des remerciements avant de se quitter, Pascal.
Je remercie tout particulièrement aujourd'hui Rachel, celle qui d'habitude est la responsable du système. Aujourd'hui,
qu'est-ce que ça veut dire responsable du système?
Je ne sais pas.
Responsable du système, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Demandons à notre Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL.
Eh bien, on ne sait pas.
Merci Benjamin. Greg, un dernier mot, vous aussi?
Il est très très bon sur RTL.
Bah, diable, de qui parlez-vous?
Il est très très bon sur RTL les mardis et jeudi à 18h30 hein, chez Thomas Soto. Très très bon.
Entre donc 18h et 20h.
Absolument.
Oui, vous parlez de Philippe Cavrivière et je pensais que nous étions une famille, Greg Caranouni, une équipe soudée fidèle.
Oh Greg, t'es un ami jadis.
Demandons alors à Philippe Cavrivière que vous retrouvez alors les mardis et jeudis chez Thomas Soto. Philippe, pourquoi nous ne sommes plus dans le cœur de Greg?
Démerdez-vous.
Merci Philippe. Allez, le débrief pour aujourd'hui, cette semaine c'est terminé. On se quitte avec une mission pour chacun d'entre nous quand la Covid-19 sera derrière nous.
La vie flamande dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.